On va faire un petit voyage matin. Si déjà. Est-ce que vous aimez les îles?
Ah ouais.
Ah ouais. Ah ouais, vous aimez les îles. Mais bon, il y a île et île. Parce que si vous allez à Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Canada, ou bien vous allez aux îles Fidji, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà rien que le climat. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Il y a une île dans le Dodécanèse qui s'appelle Patmos. Tout le monde devrait connaître Patmos parmi nos frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que l'apôtre Jean a reçu ce qu'on a appelé l'Apocalypse, qui est la révélation, bien sûr. Alors c'est une île, on dirait un pet de mouche sur la carte, parce qu'on ne la voit pas très bien. En plus de ça, c'est une île qui n'est pas très touristique, parce qu'il n'y a pas d'autosuffisance en eau. Mais c'est une île qui voit défiler des pèlerins, des gens qui viennent visiter la cave de l'Apocalypse, et puis le petit monastère qui a été construit à côté, et qui viennent se ressourcer un petit peu chez notre ami Jean. Alors, j'ai fait quand même une petite astuce, là. Quel voyage ! Parce que si on part depuis chez moi, à Ovron, puis qu'on fait ça en voiture, j'aime pas l'avion, on fait ça en voiture, ben, y en a pour 35 heures, puis plus de 2000 km. C'est quand même assez long, voyez. Mais j'ai fait ça pour la galéjade, hein. C'est pour rigoler. Mais c'est juste pour vous dire, c'est quand même pas la porte à côté non plus. Voilà. Et il y a une traversée en bateau par-dessus le marché. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'Apocalypse, c'est quoi ? C'est quoi ? Alors, l'étymologie nous dit que Apocalypse, c'est la transcription du terme grec akopalupsis, qui veut dire dévoilement, ou, comme quelqu'un me l'a soufflé à l'oreille, révélation. Voilà ce qu'il dit la Vulgate, Apocalypsis, qui a été traduit par Saint Jérôme, et puis traduit en français, révélation de Jésus-Christ dans la Bible Seconde. Les spécialistes attribuent la rédaction de l'Apocalypse entre les années 80 et 95. À la fin du règne de l'empereur Justinien. Et probablement, Jean, il est venu sur cette île de lui-même. Parce que vous savez, dans l'Empire romain, ceux qui étaient des gêneurs, ben, on les balançait sur des îles comme ça pour qu'on soit un petit peu tranquille entre nous. Mais là, Jean, il semblerait qu'il soit allé à Patmos de lui-même. Je pense poussé par l'esprit, d'ailleurs. Et puis, il a reçu cette révélation. Il y a eu dans l'Église latine des décisions conciliaires arrêtées par des synodes régionaux, notamment Carthage en 397 et 419, qui fixent à 27, c'est un peu technique, le nombre des livres reçus en retenant l'Apocalypse. À l'époque de la réforme protestante, je vous dis ça parce que j'aime l'histoire, c'est pas un secret, Luther lui accorde un rôle secondaire, donc à l'Apocalypse. Zwingli ne le compte même pas parmi les Écritures, et Calvin ne fait aucun commentaire. Alors moi, ce que je veux faire aujourd'hui, ce n'est pas toute l'Apocalypse, parce qu'on en aurait pour un moment. Mais c'est juste ces fameuses lettres, ces sept lettres qui ont été adressées aux sept églises. Et ces sept églises, elles étaient situées où ? En Asie mineure, qui est actuellement la Turquie. Alors, que représentent les sept églises ? C'est quoi ces sept églises ? Elles sont décrites déjà dans Apocalypse 2 et 3. Premièrement, elles existaient réellement. C'était des vraies églises. Deuxièmement, elles ont un sens spirituel. Pour les églises et les croyants d'aujourd'hui, ces lettres ont été écrites d'abord pour communiquer avec ces églises et répondre à leurs besoins spécifiques, mais ensuite pour révéler sept différents types de personnes et d'églises qu'on retrouve à travers l'histoire et les instruire, bien sûr, de la vérité de Dieu. Troisième possibilité, troisième sens que représentent ces églises, c'est qu'elles préfigurent sept différentes périodes de l'histoire de l'Église. Alors, il faut se méfier avec ça, parce que dans chacune des sept lettres, on décrit des problèmes qu'on retrouve dans l'Église, mais des fois les parallèles sont un peu délicats à tirer d'une Église à l'autre. Et d'ailleurs, vous allez voir plus loin que ça va se corser. Donc voici les sept églises. Éphèse, l'église qui a perdu son premier amour. Smyrne, l'église qui subira la persécution. Pergame, l'église qui doit se repentir. Thyatire, l'église qui a en son sein une fausse prophétesse. Sardes, l'église endormie. Philadelphie, l'église qui a persévéré. Et Laodicée, l'église tiède. Et vous voyez dans le texte, Christ tient sept étoiles dans sa main droite, qui signifie par là que ces églises lui appartiennent. Et il marche au milieu des chandeliers d'or, ce qui signifie qu'il est toujours présent. Oui, parce que l'Apocalypse, c'est un livre très rigolo, mais plein de sous-entendus, plein de petites choses qu'il faut décrypter au fur et à mesure. On se dit, mais c'est quoi ces chandeliers? C'est quoi ces étoiles? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Alors, je vous donne la clé ici pour ça. Nous avons en tout premier, dans la famille de cette église, je tire Éphèse, donc vous avez Patmos. Vous voyez l'île, petite île qui est là. Et vous avez Éphèse qui est ici. Et voilà l'église d'Éphèse avec la référence biblique. Alors, Éphèse, c'est une ancienne ville, bien sûr. Actuellement, c'est un site archéologique. Avec ma moitié, on a eu le bonheur de voir ça en 2004, quand on est allé en Turquie. Et on a vu, on a visité toutes les ruines, l'amphithéâtre, il y avait la bibliothèque, etc. C'était prenant parce qu'on imaginait les chrétiens à l'époque qui se réunissaient là. Et puis on imaginait que quand même, il y avait 200 000 personnes dans cette ville. Ce n'était pas un petit bled de rien du tout. C'était vraiment la grande ville. Et très importante parce qu'en plus, elle avait un accès à la mer à l'époque. Et que dit la première lettre du Seigneur? Qu'est-ce qu'elle dit? Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton labeur et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont point, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la patience, et tu as supporté pour mon nom, et tu ne t'es point lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repens-toi. Et fais tes premières œuvres, sinon je viens à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens. Cependant, tu as ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Une belle lettre, ça! Alors moi, j'ai noté le positif et le négatif, avec un petit développement personnel. Bon à savoir, le positif. Paul, acte 20-31, et son disciple Timothée, 1 Timothée 1-3, ont séjourné à Éphèse comme Jean qui a été membre de cette église. Deuxièmement, le Seigneur souligne qu'il connaît les œuvres, les efforts et la patience dont fait preuve Éphèse, contre les méchants. Troisièmement, la détestation des œuvres des Nicolaïtes, c'était une secte qui fait référence à Balaam, qu'on trouve dans Nombre 31-16, et qui prône la liberté des mœurs et le désordre sous prétexte de la grâce. Très dangereux, ça. D'ailleurs, ceci a été combattu par Paul dans Romains 6,15. Puis alors, le négatif, ça va comment, l'histoire ? Eh bien, l'Église a abandonné son premier amour. Que signifie ceci ? Abandonner l'amour pour Dieu, ça revient à laisser tomber aussi l'amour pour le prochain. Or, ce crime, aux yeux du Seigneur, est très grave, puisqu'il viole clairement les deux commandements que Jésus a laissés aux disciples. Dans Matthieu 22, 35, 40, on lit « Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?»« Je vais te choper, toi. » Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc le remède, c'est à portée de main. Il s'agit de se rappeler d'où on vient et se repentir de ses œuvres mauvaises. Et voici qu'on va aller un petit peu plus loin, à Smyrne. Et actuellement, Smyrne, ça ne s'appelle pas Smyrne, ça s'appelle Izmir. C'est donc la forme moderne pour dire Smyrne. Mais longtemps, la forme francisée Smyrne a été préférée à la forme turque Izmir, jusqu'au XXe siècle. Et dans l'Antiquité, alors ça c'était une cité aussi prospère, hein, un peu comme Éphèse, un peu moins d'habitants évidemment, mais il y avait beaucoup de communautés différentes. Il y avait des Grecs polythéistes, il y avait des adeptes des cultes à mystère, mais des chrétiens, des Romains, des juifs helléniques surtout, et arméniens. Aujourd'hui, cette ville compte 4 millions d'habitants, 4 millions, et on dit que c'est la plus occidentalisée des villes de Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé à Smyrne ? On va lire la lettre, fini, terminé. Et à l'ange de l'église qui est à Smyrne écrit « Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui est venu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns d'entre vous, afin que vous soyez tentés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura à souffrir de la seconde mort. Comme avant, je vous propose le positif. L'affliction et la pauvreté, point de vue physique, qui sont en réalité une richesse, point de vue spirituel, qu'on trouve dans Matthieu 6,20, Luc 12, 21,1, 1 Corinthiens 1,5, 2 Corinthiens 6,10, 2 Corinthiens 8,9. Joli, joli. Résister aux calomnies des Juifs, qui sont la synagogue de Satan par opposition à leur croyance d'être l'assemblée de l'Éternel. Parce qu'ils disaient, je suis l'assemblée de l'Éternel. Mais il faut savoir que les Juifs ont pris une part active dans la persécution des chrétiens en les dénonçant notamment et en disant, ah, mais eux, ils adorent un dieu, mais les Romains, ils adorent un autre dieu. Donc, ils n'adorent pas César, ni les autres dieux romains, donc c'est des mauvais. Les Juifs étaient méchants, hein. C'est pas sympa. Naturellement, ceux qui tiendront bon seront couronnés de la vie éternelle. On en a parlé avant, on a chanté. Et ne subiront point la seconde mort. Celle-ci signifie au contraire la séparation définitive avec Dieu, réservée à tous ceux qui sont restés incrédules. Le négatif, mais avec une promesse. Certains dans l'Église vont souffrir pendant 10 jours en étant jetés en prison. Néanmoins, le Seigneur promet son intervention pour les tirer de là. Or, 10 jours, toujours dans la Bible, les chiffres, les durées, tout ça, c'est assez compliqué, surtout dans l'Apocalypse, mais ça représente une courte durée en réalité. ça symbolise ce qui est complet du point de vue humain. On peut voir ça dans Daniel 1.12, notamment. Puis on continue. Caminiamo. On va à Pergame. Pergame, qui est aussi une ruine, hein, actuellement. Un grec ancien, Pergamon, qui signifie « citadelle ». C'est donc une ancienne ville, là-bas, néolide, au nord de Smyrne, on voit, au confluent du Caïque et du Sétios, ces deux fleuves, et environ 25 km de la mer Égée. À l'heure actuelle, son nom, c'est Bergama, en turc, n'est-ce pas? Et puis, il y a un riche terroir, là-bas. Il y a beaucoup de blé, il y a des oliviers, il y a de la vigne, il y a de l'élevage. Peut-être que c'est un peu comme le Valais. Deux, trois abricotiers, puis des vaches d'airain. Super! L'industrie s'est très diversifiée. Il y a des parfums, des draps fins, des parchemins. La bibliothèque, elle comptait 200 000 volumes, ce qui en faisait une des principales avec Alexandrie. Et elle est fameuse pour son école de rhéteurs, c'est-à-dire ceux qui font de la rhétorique, n'est-ce pas, qui étaient très doués, et des ateliers de sculpteurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est la troisième lettre. Qu'est-ce qu'il dit à Pergame ? Et à l'église, il dit à l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit : voici, celui qui dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours d'Antipas, mon fidèle, mon témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses. Tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à jeter devant les fils d'Israël une pierre d'achoppement qui consistait à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. De même, tu en as toi aussi qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, pareillement. Repens-toi donc, sinon je viens à toi promptement et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Cool. Le caillou. Le reste, bon, positif. Positif avec un grand éloge. L'Église retient le nom du Seigneur, soit la confession à Christ, Actes 5.38. La foi démontre la fidélité envers Christ. Le martyr d'Antipas, eh bien voilà, c'est un évêque là-bas qui a été assassiné pour donner un exemple aux autres chrétiens qui rejetaient catégoriquement le culte d'Esculape, qui était bien présent là-bas. Vous savez Esculape ce que c'est ? Est-ce que vous avez déjà vu les serpents sur les drogueries, sur les pharmacies, chez les médecins ? Esculape, le serpent. Or, ce temple d'Esculape était très important dans cette église-là, et les chrétiens, bien sûr, combattaient ça, non seulement par la prière, mais ils allaient aussi avec des banderoles de vin, on ne veut pas Esculape. Et donc, Esculape, représenté sous la forme du serpent, fait bel et bien penser à Satan. Le négatif, malheureusement, au sein même de l'Église, se trouvent des personnes qui sont des Nicolaïtes. C'est le contraire de ce qui se passe à Éphèse, comme on a vu avant. Et ne pas se repentir, il y a un problème, va conduire à la destruction de ses frères. Là où on parle de repentance, il s'agit de la repentance de toute l'Église. Sans quoi le Seigneur, il va intervenir, puis il va ôter la grâce qu'il a mise dans l'Église. Et celle-ci sera alors morte spirituellement, quand bien même ses membres continueraient de se réunir. Et nous poursuivons notre route. On va à Thyatire. Thyatire, voilà, j'ai juste cette petite gravure. Il y a quand même une mosquée, là. Ah bien. Moins bien. Thyatire, en grec, Thyatira, c'est le nom antique de la ville turque contemporaine d'Akhisar. À l'époque romaine, il y a Vespasien qui a fait des travaux là-bas, Hadrien qui l'a visité en 123, et Caracalla en 215. Donc des personnages importants de l'époque qui sont déplacés dans cette ville. À son apogée, elle est renommée pour son activité de teinturerie. Tiens, tiens, teinturerie. Actes des Apôtres, 16-14. Quelqu'un est passé par là aussi. Polo. À comparer, d'ailleurs, Apocalypse 1.14, Apocalypse 1.15, la dénomination qui est dans la lettre, vous allez voir, le Fils de Dieu se trouve pas ailleurs dans l'Apocalypse. Ce titre, il est donné au Christ en vue de la manifestation de sa puissance qui est décrite au verset 27 que je vais vous lire. Et les traits qui caractérisent ici le Seigneur ont sans doute rapport à la menace exprimée au verset 23 que je vais aussi vous lire. Parce que c'est là, c'est pas de raison. Donc, à l'ange de l'Église qui était à Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à des reins le plus fin. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter dans un lit et plonger ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande affliction, s'ils ne se repentent pas des œuvres qu'elle leur enseigne. Et voici le verset 23. Et ses enfants, je les frapperai de mort. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mais je vous dis à vous autres qui êtes à Thyatire, à tous ceux qui ne retiennent pas cette doctrine et qui n'ont point connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne jette point sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Et voici le verset 27. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, comme les vases de potier, elles seront brisées, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Voilà, voilà. Le positif. Verset 19. Le Seigneur y voit la progression de l'Église. Et ils lui ont fait compliment. Il y a pas mal, ça. Christ encourage ceux qui tiennent bon jusqu'à ce qu'ils viennent. Rien de négatif. Là, ça coince. Ça coince parce que Jézabel, c'était une prophétesse dans l'Église, là, à tendance libertine. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle porte le nom qui lui est donné, mais c'est une allusion à la femme d'Akab. Donc, les références, c'est 1 roi 16, 1 roi 18, 1 roi 19, 1 roi 21 et les suivants, et 2 rois 9 et 22 et suivants. Et donc, on sait ce qui s'est passé avec Jézabel et Akab, le plus mauvais roi de tout Israël. Or, le parallèle avec l'église de Thyatire est évident, sauf la repentance une fois de plus. Et on continue notre petit bonhomme de chemin. On va à Sardes. Voilà, Sardes. Autrefois, c'était la capitale des rois de Lydie, dont un certain Crésus fut le dernier. Ah, c'était pas une ville pauvre. Riche comme Crésus, parce que non seulement elle était riche comme ça, mais en plus, elle était dans une plaine qui est arrosée par le fleuve. Tout le monde le sait, vous le dites à ma place. Pactole. Pactole. Décrochez le pactole. Et c'était un fleuve qui faisait la richesse de la ville de Sardes. Alors, elle était détruite sous le règne de Tibère. Et puis, au IIe siècle, il y a eu un évêque qui s'appelait Méliton. Et puis, aujourd'hui, c'est un hameau de bergers. Quelques ruines, quelques restes. Mais seulement, il y a quand même une petite lettre qui va venir, là. À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en allait mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes un petit nombre de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. » Le positif. Quelques-uns sont restés fidèles, sont restés à contre-courant de l'Église et figurent dans le livre de vie. C'est important que le nom de chacun d'entre nous figure dans ce beau livre. Elles en sont dignes, dit le Seigneur, des personnes auxquelles il promet cette gloire, non qu'elles l'eussent méritée par quelques œuvres, car la fidélité est une grâce de celui qui nous rend et nous conserve purs. Mais elles avaient fait valoir ce don de la grâce avec humilité, avec conscience, et devaient, d'après l'ordre de Dieu, recevoir davantage. Une petite allusion dans Matthieu 25, 14 à 30. Et le négatif, alors, à trop se conformer au monde, l'Église et ses membres meurent. C'est un grand mal qu'une grande réputation, quand elle est mal fondée. Que sert d'être estimé de celui qui ne voit que l'œuvre extérieure, s'il en est condamné par celui qui voit les œuvres du cœur? On va à Philadelphie. Oui, c'est pas aux États-Unis, hein. C'est toujours en Asie mineure. Philadelphie, bah, c'est aussi une ancienne cité, évidemment. Elle se situait sur la route qui relie Sardes à Colosse. Et actuellement, aujourd'hui, elle s'appelle Alaşehir. Alaşehir, c'est en turc. Hein. Et à l'époque, Philadelphos, Philadelphie, Philadelphos, ça signifie littéralement « qui aime son frère » en grec. Philadelphos. Que dit la lettre à Philadelphie ? Et à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie a écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, j'amène des membres de la synagogue de Satan qui se disent juifs, encore, et ne le sont point, mais qui mentent. Je ferai qu'ils viennent et qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole de la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Le positif. Les qualificatifs dont le Seigneur est paré sont appropriés pour l'Église de Philadelphie, en particulier la porte qui est ouverte que nul autre ne peut actionner. Et on trouve cette image dans Ésaïe 22, 22, où il dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ensuite, la fidélité reconnue par le Seigneur qui dit « Je connais tes œuvres et tu n'as pas renié mon nom. » Par contre, il y a du négatif. De nouveau, les adversaires des chrétiens à l'époque, ce n'étaient pas des judéo-chrétiens. J'ai déjà signalé avant, les juifs, ils n'étaient pas sympas. Ce n'étaient pas des judéo-chrétiens. Certains interprètes pensent ça. C'était des juifs inconvertis, persécuteurs de l'Église. L'épreuve ou le jugement qui viendra en Apocalypse 8 et 9, qui vient sur la terre est à la fois négatif pour ceux qui le subiront et positif pour ceux que le Christ a mis à part, entendez, à sauver par son sacrifice à la croix et qui auront tenu ferme. Et on finit par la brave Laodicée. Oui, alors Laodicée, il y a eu beaucoup de Laodicée qui portait ce nom dans l'ancien empire séleucide, en Asie mineure. Et il s'agit des reines Laodicée qui ont donné leur nom à plusieurs villes comme ça. Et Laodicée, entre parenthèses, ça veut dire peuple juste. Donc Laodicée du Lycos en Carie, en Lydie ou en Phrygie, près de l'actuel Denizli en Turquie, et la Laodicée du Nouveau Testament. Et cette ville, c'est amusant parce que malgré tous les tremblements de terre qu'elle a subis, elle a toujours pu se reconstruire sans aide extérieure. Bon, elle était suffisamment riche pour cela. Et que dit l'Esprit à Laodicée ? Il dit ceci. « Un ange de l'Église qui est à Laodicée écrit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Plût à Dieu que tu fusses froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux, misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, mais un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Positif ? Positif avec une fenêtre d'espoir. Verset 18. Le Seigneur prodigue un bon conseil pour échapper au jugement. En l'occurrence, acheter de l'or éprouvé par le feu. Par la touchante image du verset 20, qui dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, Christ exprime vivement son amour des âmes. Le Seigneur veut gagner tout à fait ce qu'il a réveillé par ses reproches et ses exhortations. Il se tient à la porte du cœur. Il s'y arrête. Il frappe par les mouvements de son esprit et il fait entendre sa voix par sa parole. À celui qui reconnaît sa voix et qui lui ouvre avec amour, il fait éprouver comme un avant-goût de ce souper céleste. Cette nouvelle scène de l'Église des rachetés célébrant les noces de l'agneau, Apocalypse 19, 6, 9, Luc 22, 16, Luc 22, 30. Négatif, par contre, alors là, ça, c'est chaud. Hein. Au verset 16, il y a ces terribles paroles. « Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le froid, c'est l'homme naturel. C'est celui qu'on croise dans la rue. Apparemment, il s'en fout. Dieu, c'est pas important. La majorité de nos contemporains. Le tiède, c'est celui qui connaît l'Évangile, mais que tous les moyens de grâce, tout l'amour du Sauveur n'ont pu gagner assez pour l'arracher lui-même au monde. Être bouillant, par contre, c'est être tout entier pénétré du feu de l'Esprit. L'Esprit qui sanctifie, comme dans Romains 12, 11. Donc on peut être un peu surpris que le Seigneur préfère le froid au tiède. Mais vous avez essayé de boire de l'eau tiède ? Pas terrible, hein ? Plutôt tendance à la recracher. Donc, le but de l'évangélisation, c'est d'être, de toucher par la grâce, de montrer la grâce de Dieu, d'ouvrir les yeux sur les conditions misérables des gens qui pourront accéder au royaume éternel, contrairement aux tièdes qui se croient sauvés et qui abuse de sa position, et donc, il meurt spirituellement. Fini. Ciao. Conclusion. Ah. Les sept lettres du Seigneur reflètent les églises antiques. Il y a quand même une comparaison avec nous aujourd'hui. Alors on peut dégager des tendances de ces lettres. Premièrement, le Seigneur s'adresse aux différentes églises selon leur état actuel. Il s'agit du Christ qui reviendra un jour en gloire. Les jugements positifs et négatifs sont mis en exergue et sans concession. Les exhortations « Tiens ferme, repens-toi » sont à prendre très au sérieux. La demande d'écoute est omniprésente par la phrase que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et les promesses accompagnent chaque lettre selon les églises. Alors dans le détail, je vous rappelle, à Éphèse, manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. À Smyrne, la couronne de vie, la délivrance de la seconde mort. À Pergame, la manne cachée, le caillou blanc, un nom nouveau. À Thyatire, le pouvoir sur les nations et l'étoile du matin. À Sardes, un vêtement blanc et le nom dans le livre de vie. À Philadelphie, une colonne du temple au nom de Dieu, la Jérusalem nouvelle et un nom nouveau. Et à l'Odyssée, le repas avec le Christ, siéger avec lui sur son trône. C'est cool. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ouais, ben, pas terrible, hein? Là, c'était un petit sondage de la RTS. 14 000 réponses, quand même 53% qui ne croient pas du tout en Dieu. Voilà, voilà. Donc je vous dis, il y a le monde, puis les incroyants. Ça rappelle la parabole de Lazare et du riche, si vous pouvez vous en souvenir. Parce qu'il y a un abîme entre les incroyants et les croyants, entre nous et le monde. Et cet abîme, par grâce, parce que nous sommes dans un temps de grâce, peut être franchi par la passerelle Jésus-Christ. C'est le seul moyen. Dans la parabole, vous vous souvenez, l'abîme était infranchissable. Moïse ne pouvait pas faire venir le riche, ni même prévenir ses frères sur la terre. Mais là, il y a la possibilité pour les incrédules, les incroyants, les païens, de venir à Christ, en passant par lui. Et le fameux royaume où on ne va pas s'ennuyer, eh ben il passe par là. Et l'Église, alors? Ça, les incrédules, il y a nous, mais il y a l'Église aujourd'hui. Et l'Église aujourd'hui, si Christ revient demain, est-ce qu'il va trouver la foi? Il a déjà posé la question. Est-ce qu'il va trouver son épouse prête? Ah! Grosse question. Alors, il y a trois branches. Non, trois. Trois branches dans la chrétienté, dans le christianisme. Il y a le catholicisme, il y a l'orthodoxie et il y a le protestantisme. Il y a un petit problème, parce qu'il y a, tenez-vous bien, vous êtes assis, 47 300 dénominations ou rites chrétiens connus. Et ça, ça a été mis en exergue par le Center for Study of Global Christianity. Les lettres adressées aux sept églises antiques, qui donc, c'est les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, sont un avertissement pour nous aussi aujourd'hui. Attention, il s'agit de garder le cap, de tenir ferme face aux tempêtes antichrétiennes qui se déchaînent, attisées par les souffles enflammés du malin. Pourquoi? Ben, c'est justement pour ne pas se voir retirer le chandelier. Il faut tenir ferme, les amis. C'est un rappel puissant, intemporel, de la nécessité de la vigilance spirituelle. Parce que vous avez remarqué, dès que vous êtes plus vigilant spirituellement, il y a tout à coup des accros, il y a un truc qui se passe, il y a un pneu qui crève au bord de la route. C'est très, très, très embêtant. donc un examen de conscience pour chacun. Elle appelle chaque croyant, chaque église, à rester fidèle à la foi, à embrasser les valeurs de l'Évangile, à se préparer pour le retour du Christ. Ben aujourd'hui, ben, il y a tellement de tentations, il y a tellement de possibilités de se mettre à côté, d'avoir des défis. Donc c'est crucial de se souvenir de ces enseignements. Et il faut surtout nous unir, dépasser nos divisions et revendiquer notre identité en Christ. L'appel, il est clair, tenir ferme, rester vigilant, droit dans les bottes, continuer à éclairer le monde avec la lumière de notre foi. Chaque église, chaque croyant, chacun d'entre nous en clair, doit se souvenir de ses paroles et se laisser guider par elles. Et je termine par ces quelques versets de l'Apocalypse 22. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif « Vienne !» Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute tes paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ».
Amen.
Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Et j'ajoute avec vous, Maranatha, Seigneur Jésus.